Bonjour David, bonjour à tous. Un témoignage en début de journal, celui d'Eva Cousineau qui a connu une sacrée frayeur lors du vol Séville-Nantes. Dimanche, l'avion s'est posé en urgence à Bordeaux. Le pôle menuiserie du lycée Saint-Jean de Bressuire invitait vendredi dernier des professionnels du bois pour renforcer le rapprochement école-entreprise. Le salon du livre a lieu au Pin samedi. Il a la particularité de rassembler uniquement des auteurs originaires ou domiciliés dans la commune. L'école de tennis de Niort dispose de deux nouveaux cours en terre battue synthétique, auto-financés par le club. Le département a débattu des orientations budgétaires hier à Niort. La collectivité affiche une bonne santé financière, contrairement à une cinquantaine de départements déclarés en situation critique. Grâce à une bonne gestion rigoureuse depuis 10 ans, estime Coralie Desnoux, en référence à l'arrivée de la droite au pouvoir. Situation qui permet d'investir dans les collèges, les routes, la dépendance, souligne la présidente, alors que son opposition déplore que cette gestion se fasse au détriment des plus faibles dans le secteur social et l'aide à l'enfance. Grosse frayeur pour les 200 passagers d'un Boeing du vol Séville-Nantes dimanche, parti jeudi pour un petit week-end en Espagne avec sa mère et sa sœur. La bocaine Eva Cousineau a vécu un retour mouvementé. Déjà, l'avion qui devait décoller à 16h20 dimanche n'a quitté le tarmac que 3/4 d'heure plus tard, mais c'est dans les airs que les choses se sont compliquées. Eva Cousineau.
Au bout d'une heure, les voyants s'allument pour bien attacher sa ceinture et on nous indique qu'on arrive dans une zone de turbulence. Donc du coup, les gens commencent à être un peu inquiets, mais bon, tout va bien. Et tout d'un coup, on a un message du capitaine qui dit que l'on va atterrir en urgence sur Bordeaux parce que l'avion présente une panne. Donc de là, les gens ont commencé à se tenir les mains. Il y a une dame devant moi qui était un peu claustrophobe en plus, qui a commencé à faire une crise de panique. Du coup, après, l'avion a commencé à descendre et vraiment là, c'était très turbulent, ça tanguait de tous les sens. Du coup, l'avion a pris de vitesse. Enfin, c'était pas du tout un atterrissage comme habituellement ça devait l'être.
Habituellement, lorsque le pilote fait atterrir l'avion, on l'applaudit. J'imagine que là, ça a été deux fois plus fort que d'habitude.
Standing ovation. Ah, c'est clair. Ah oui, il y a les gens, ouais, ont applaudi de soulagement. Là, c'était un applaudissement très soutenu, ça c'est sûr.
Est-ce que vous changerez de compagnie ou vous garderez le même avion?
Ça, par contre, effectivement, au niveau de la compagnie, on se dit la prochaine fois, peut-être qu'on passera sur Air France, sur des Airbus, en tout cas sur des avions Airbus et non Boeing. La fiabilité française fait qu'on est plus rassuré.
Et l'avion, victime d'une fuite d'huile moteur, a été cloué au sol. Les voyageurs ont été acheminés de Bordeaux à Nantes par bus et sont arrivés à destination 7 heures plus tard que l'horaire prévu. À propos de la grippe aviaire, des mesures renforcées de prévention sont mises en place par arrêtés préfectoraux en Vendée et dans 3 départements limitrophes, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres. Ces mesures temporaires s'appuient sur le renforcement de la surveillance, la mise à l'abri des volailles, la réalisation de tests avant mouvement et pour les canards, la réalisation d'une 3e dose vaccinale. Elles seront levées le 31 décembre si la situation sanitaire le permet. Ce vendredi, le pôle menuiserie du lycée Saint-Jean de Bressuire invitait des professionnels du bois pour renforcer le rapprochement école-entreprise. 6 entreprises ont répondu présentes pour échanger avec les stagiaires et les alternants en CAP, monteur, fabricant et bac pro, technicien, menuisier, agenceur sur les problématiques d'entreprise qui accueillent ces jeunes. Delphine Grelier, directrice de Saint-Jean en charge du lycée pro.
Il faut absolument tout mettre en œuvre pour pouvoir relier une communication et de l'échange entre le milieu scolaire et les entreprises qui ont des besoins. Donc oui, très 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 important pour tous nos partenaires.
Des jeunes qui peuvent faire de l'alternance, mais pas que, des jeunes qui sont aussi sous statut scolaire. Il y a cette mixité qui est riche.
Alors cette mixité effectivement permet de se dire qu'on soit apprenti ou qu'on soit un élève scolaire, eh bien la donne est la même et là d'ailleurs ils passent le même diplôme dans les mêmes conditions, donc c'est forcément porteur pour tout le monde.
Et comme ses collègues chef d'entreprise Mathieu Hérault, artisan menuisier à Montcoutan, insistait sur le savoir-être pendant les heures de travail, cet ancien élève de la filière menuiserie à Saint-Jean forme des apprentis et prend régulièrement des stagiaires.
Moi, j'ai toujours eu cette philosophie d'avoir de l'apprentissage déjà en entreprise, plus avoir du stagiaire, parfois trop. On se retrouve des fois emmener 2 camions sur les chantiers parce qu'il faut emmener les stagiaires plus les apprentis. Mais non, c'est... Moi, j'ai toujours eu l'envie de montrer le métier, d'apprendre aux jeunes. Voilà, on se plaint tellement qu'on manque de personnel que si on fait pas l'effort de recevoir tous ces jeunes, voilà, on peut pas évoluer quoi. Donc non, je trouve ça vraiment génial.
Ouais, vous avez beaucoup insisté ce matin sur d'abord le savoir-être.
Ah oui. Bah moi, honnêtement, oui. C'est bon, on voit tellement de jeunes à l'heure actuelle qui arrivent. Je sais pas si c'est un problème d'éducation ou autre, mais il manque beaucoup de choses. Le bonjour, le au revoir, le merci, le savoir-être envers les gens. Nous, on travaille que chez du particulier. Donc ce savoir-être, il le faut tous les jours. Cette particularité-là, faut l'avoir. Le bien-être, la bienveillance, même aussi avec ses collègues. Hein.
6 entreprises avaient donc répondu présentes à cette matinée d'échange au lycée Saint-Joseph, Mobitech, Celio, MH Menuiserie, Maurice Construction Bois, SAS Bibar et DPC. La construction d'un nouveau pôle santé a débuté à Argenton-l'Église, commune de Lauré d'Argenton, sur un investissement total d'1,5 million. La communauté du Thouarsais assure l'essentiel de l'enveloppe avec près de 800 000 euros, suivi à égalité par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine, 300 000 euros chacun, et enfin le département avec 100 000 euros. Sur un terrain de 3 600 m2, 3 cabinets de médecins et 3 boxes seront construits pour un potentiel de 10 professionnels de santé dans la configuration maximale. Pour l'heure, le site existant est occupé par les docteurs Marie Geste et Simon Charasson, ainsi que 3 infirmiers et un kiné. Au Pin, les auteurs se retrouvent au Salon. Le Pin a la particularité de compter 7 auteurs originaires ou domiciliés sur la commune. Après 2021 et 2023, avec l'aide de la municipalité, ils organisent ce samedi 29 novembre un salon qui les rassemble à la salle des fêtes. Noël Pouplein, Edith Orango-Picard, Marie Gazot, Patrick Jay, Pascal Pavy, Monique Guérin-Simoneau et Christian Stock seront ainsi réunis. Ces 2 derniers sont passés en studio pour nous en parler.
Il y a 7 auteurs sur la commune, dans des genres différents, qui peuvent toucher au patrimoine local, à l'histoire et la généalogie, comme à la culture en général, le côté rural des choses, et puis aussi, essentiellement, l'imagination qui pousse à l'écriture.
Ça fait plaisir sans doute, Monique Guérin-Simoneau, que d'avoir autant de confrères auteurs sur cette commune.
Ça laisse bien augurer de la culture de proximité et aussi de la culture en général, puisque nous avons beaucoup de personnes en fait qui écrivent et beaucoup de personnes qui lisent également. Donc je pense que ce petit salon, bon, qui avait été lancé de façon un petit peu occasionnelle, devient pérenne et je pense est attendu par la population.
Et 2 auteurs sont également invités sur ce salon du livre Pintet. Philippe Certain, co-auteur du dernier ouvrage de Monique Guérin-Simoneau, et Gérard Gabory, voisin combranais, qui présentera son ouvrage relatif à la Seconde Guerre mondiale. La revue 93 d'HPB est parue il y a quelques jours. Jacques Etioux s'est intéressé à Pierre-François Deschamps, décédé en 1828, un Bressuirais quasi inconnu du grand public, seulement de quelques historiens qui ont accès au site de généalogie et militaire. Guy Marilène, le président de l'association Histoire et Patrimoine du Bressuirais, au micro de Patrice Bémanongy.
Ce personnage de Pierre-François Deschamps, il est intéressant parce que il est né d'une famille bonne bourgeoise. Son père avait été le premier maire élu de Bressuire au moment de la Révolution. Et ce jeune homme s'engage dans l'armée et va avoir tout un parcours extrêmement intéressant que Jacques Etioux a réussi à reconstituer, puisqu'il va traverser la Révolution, l'Empire, la Restauration. Hein, et donc, il va réussir à obtenir ce grade de colonel, partant de simples soldats. Et donc c'est un parcours extrêmement intéressant et de voir que au cours de l'Empire, c'est un soldat puis un officier qui va parcourir toute l'Europe derrière Napoléon.
Ce numéro 93 de la revue HPB est disponible sur le site de l'association, à la librairie Le Fresneau, à l'espace culturel Leclerc ou encore au Tabac Presse place Émile Zola à Bressuire. Il reste des places pour aller voir Louise Jalut, prodige du bandoneon, qui revisite audacieusement Piazzolla dans un spectacle proposé vendredi soir 28 novembre au théâtre de Bressuire. En sport, 2 terrains flambant neufs pour l'école de tennis de Niort. Le TN disposait de 2 terrains en terre battue, mais en friche depuis plusieurs années et de fait totalement Délaissé par les joueurs, le club a donc transformé deux terrains en résine aux abords du clubhouse, très peu utilisés, en terre battue synthétique, utilisable toute l'année. De nouvelles installations inaugurées en fin de semaine dernière, une très belle satisfaction pour le club, d'autant plus que les travaux ont été totalement autofinancés à hauteur de 135 000 euros. Le président de l'ETN, l'école de tennis de Niort, David Ribro.
On est super content, fier d'avoir pu financer en plus à 100% ce projet. On a donc transformé donc le tapis plus la terre et donc l'éclairage LED. Même si on est de plus en plus intéressé par le multi-raquette, on sait que le tennis c'est la discipline historique et de replacer de beaucoup au milieu du club, c'est important pour nous.
C'est quoi les projets justement en lien avec tout ça pour profiter à fond de ces deux terrains?
Ouais, et puis on s'est dit qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de plus de cours que ça à l'extérieur en fait. Donc pour l'instant, entre guillemets, on renonce à rénover les deux cours du fond. On se dit qu'on en a assez, donc autant offrir quelque chose de qualité à nos adhérents. Là, je pense qu'on va faire l'unanimité. En plus, c'est une surface qui va nous permettre d'améliorer la qualité de la formation des joueurs. C'est exigeant comme surface, mais c'est vraiment une très belle surface pour se former, pour jouer. C'est plus confortable aussi pour les anciens.
David Ribro, le président de l'école de tennis de Niort, au micro-colline de Grégory Diguet.